BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles tous les jours. Dans quelques minutes, on va parler de tracker, d'ETF, on va parler de cave, de box et de stockage. Et puis on va aussi parler investissement avec ses enfants dans l'émission. A tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
Bonjour à tous. Après un faux départ en octobre dernier, Planisware a réussi ce matin son introduction en bourse, la plus grosse IPO depuis 4 ans sur Euronext Paris. La société française de logiciels pour entreprises est valorisée à hauteur de 1,1 milliard d'euros. Le prix d'une action est fixé à 16 euros. Sachez que le cofondateur et président de Planisware, Pierre de Monzan, sera l'invité d'Edwige Chevrillon ce soir à 18h10 sur BFM Business. La matinée a été riche en publications de résultats. Danone annonce un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros au premier trimestre, une baisse de 2,5% sur un an sous l'effet de son retrait de Russie et des taux de change. Mais le groupe fait mieux que prévu grâce à l'augmentation des prix et des volumes vendus. Forvia, de son côté, annonce une croissance organique de son chiffre d'affaires à hauteur de 3,1% au premier trimestre. Le fournisseur automobile enregistre des prises de commandes de 6,5 milliards d'euros, tirées notamment par le marché chinois. Chez les fabricants de semi-conducteurs, TSMC dépasse les attentes au premier trimestre. Son bénéfice net progresse de 9% sur un an à 6,5 milliards d'euros. Le numéro 1 mondial du secteur profite d'une vague de demande des puces électroniques utilisées dans les applications d'intelligence artificielle. Nokia publie un bénéfice net de 438 millions d'euros au premier trimestre, un bond de 52% sur un an. Le groupe voit pourtant ses ventes reculer de 20%, mais il résiste grâce à une gestion serrée de ses coûts. Edenred annonce un chiffre d'affaires opérationnel de 625 millions d'euros au premier trimestre, une hausse de 18,8% sur un an, des résultats meilleurs que prévus, portés notamment par les performances de sa plateforme Reward Gateway. Chez Total Energy, des actionnaires veulent en finir avec le cumul des fonctions de Patrick Pouyanné. Ils ont déposé une résolution en vue de l'Assemblée générale du 24 mai afin de séparer ses responsabilités de directeur général et de président du conseil d'administration. Les actionnaires en question espèrent une meilleure gouvernance et des engagements plus ambitieux sur le climat. Dans l'actualité internationale, la Chine accuse Joe Biden d'hypocrisie. Cela fait suite aux propos du président américain hier. Il reprochait à Pékin d'être xénophobe et de tricher dans le commerce mondial sur l'acier et l'aluminium. En réaction, la Maison-Blanche envisage de tripler les droits de douane sur les produits sidérurgiques chinois. Enfin, les ministres des Finances du G7 condamnent l'attaque de l'Iran contre Israël le week-end dernier. À l'issue d'une réunion hier, le groupe s'engage à coopérer sur les sanctions contre Téhéran. Il promet aussi d'exploiter au maximum les actifs russes gelés afin d'aider l'Ukraine. De son côté, l'Union européenne va imposer de nouvelles sanctions contre les producteurs de drones et de missiles iraniens.
Merci Johan, on vous retrouve dans une heure.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, vous êtes dans Tout pour investir, l'émission qui s'occupe de votre culture financière quotidienne. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours de 10h à midi. Et puis on est en podcast. Salut à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes jeudi 18 avril 2024. Au programme de l'émission, sommes-nous en train de passer d'une économie du divertissement à une économie de la dopamine, avec des dealers qui s'appelleraient Meta, Alphabet ou encore TikTok. Johan Lopez de Snowball va nous expliquer l'impact sur notre santé et sur nos investissements de cette économie dopaminée. À 10h30, votre dose d'économie comme tous les jours avec Nicolas Dose qui va nous décrypter le rapport de la Cour des comptes au vitriol qui n'a jamais été aussi loin pour dézinguer les promesses économiques. Côté bourse, c'est Antoine Larigauderie depuis Euronext qui est déjà branché et nos deux traders qui sont en train de se connecter pour le match des traders. On vous coach aujourd'hui. Immobilier, faut-il investir dans une cave, dans un box, dans un espace de stockage? Et oui, la question se pose, si vous avez un petit peu de cash, on vous dira si c'est une bonne ou une mauvaise idée. L'humeur des investisseurs financier est particulièrement changeante en ce moment. Franklin Pichard de Kipling Finance va nous dire que c'est beaucoup trop tôt pour juger la saison, mais que quand même on peut dire que le pire est passé. Rendez-vous pour son sentiment de marché d'ici 25 minutes. Et jeudi, on parle d'ETF, double dose de tracker aujourd'hui. D'abord, notre CGP du jour, Géraldine Métifeux d'Alter Egal, va nous dire comment souscrire aux ETF crypto par des ETF lambda. On va en parler dans une dizaine de minutes. Et puis vers 11h30, c'est Jérémy Tubiana de BNP Paribas AM qui va nous aider à investir efficacement avec les trackers. Tour d'horizon du marché de ces ETF qui grossit pour répondre aux besoins d'une clientèle qui devient de plus en plus retail. Puis aujourd'hui, on investira différemment. On investira en famille pour un avenir durable. C'est Brune Ribadeau-Dumas de Kimpa qui va nous expliquer comment impliquer sa progéniture, ses enfants dans l'investissement à impact positif. Dans cette émission, il y a vous, chers auditeurs, auditrices. Vous nous écrivez pendant toute l'émission. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn. Je suis connectée, je vous lis. Vous êtes très nombreux à me poser des questions sur vos impôts. Nous allons prévoir un question-réponse spécial impôt, je pense, d'ici quelques jours pour pouvoir répondre à vos questionnements. On part du côté d'Euronext, rejoindre Antoine.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Antoine, on vous retrouve sur fond de vert. Une belle progression du CAC 40 ce matin qui surperforme le reste de l'Europe. Pour ceux qui nous suivent en image, vous voyez la carte derrière nous.
Oui, effectivement, et encore une fois, au milieu des incertitudes monétaires, des climats un petit peu compliqués qu'on peut traverser sur les marchés ces derniers jours, on peut encore faire confiance aux entreprises pour nous délivrer de bonnes surprises, de bons chiffres. Le CAC 40 gagne 0,48%, on est à 8019 points. C'était pas donné quand on reconquiert les 8000 à l'ouverture, puis on a eu une belle impulsion haussière juste avant l'ouverture des marchés. Il y a eu les bons résultats de Nokia, de TSMC, qui permettent déjà d'avoir cette tendance positive, et puis on le voit bien plus positif qu'à Francfort, qui ne gagne que 0,18%, l'Eurostock 50 plus 0,39%. Alors les bonnes nouvelles du jour, on en a beaucoup parlé tout ce matin, Edenred avec ses chiffres trimestriels, le titre gagne 4,5% à 46,80€. Il y a Danone aussi qui a rassuré avec ses résultats, ses perspectives, le titre gagne 1,5% à 59,42€. Et Sylor Lussotica plus 1,5% à 204,20€. Puis à noter Forvia aussi, auteur d'une très belle performance, plus 5,5%. On est à 14,28€. Alors cela dit, on a eu les résultats de TSMC, le leader taïwanais des semi-conducteurs. C'était un petit peu avant l'ouverture des marchés. Alors des chiffres un petit peu compliqués à interpréter, mais du coup les principaux titres des semi-conducteurs en Europe sont en baisse. On reste aussi dans le siège des mauvaises nouvelles en provenance d'ASML, publié hier. STMicro signe la plus forte baisse du CAC à moins 0,57% à 37,83€. Non, c'est Thales qui désormais signe une baisse de 0,7% à 156€. En revanche, alors lourde baisse pour Sartorius Stedim, la biotech qui perd 15% à 211,50€ après des chiffres vraiment décevants. Pour le premier trimestre, on a Française des Jeux aussi qui est vendue, moins 3,5% à 35,38€. Et puis, mention spéciale pour Planisware, la plus belle introduction en bourse depuis un petit peu plus de 3 ans, ici à Euronext Paris. La dernière de cette dimension, c'était OVH Cloud. Là, on a un spécialiste de la gestion de projet pour les entreprises qui est valorisé à plus d'1,1 milliard d'euros. Mais alors, succès immense pour le titre qui commençait à coter à 16€. Là, on est à 20,18€. C'est une hausse de 26,1%. Donc, introduction vraiment très réussie pour Planisware. Le CAC 40, plus 0,47%, est à 8019. Et du côté de l'euro face au dollar, on est globalement robuste. Aux portes d'1,07, on a un euro-dollar qui cote à 1,0680, très exactement.
Merci beaucoup Antoine. Deux rendez-vous d'abord avec vous dans une heure. On reviendra sur cette entrée en bourse, sur cette IPO de Planisware réussie. Et puis son patron Pierre de Montsant sera au micro de Guillaume Paul et d'Audrey Tcherkov vers 18h. Et Début Chevrillon, on décortiquera avec lui ce succès, cette entrée en bourse de cet éditeur de logiciels en gestion de projet. A tout à l'heure Antoine. Pour l'heure, c'est le moment de faire le point sur les actus patrimoniales qui vous concernent.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et notre rédacteur en chef ce matin, nous l'avons piqué à l'équipe Snowball. Bonjour Johan Lopez.
Bonjour Lorraine.
Aux manettes de cette newsletter financière avec nous le jeudi pour souligner des actualités qui nous concernent. Nous allons commencer par parler de nos ados. Ouais. Des adolescents qu'il faut regarder de près pour savoir comment investir. Racontez-nous.
Oui, en effet, les ados, c'est un peu les consommateurs principaux de demain et c'est aussi des ados qu'il faut suivre parce que les tendances chez eux, en général, ça peut se diffuser aussi dans le reste de la population. Donc en fait, chaque semestre à peu près, il y a une banque donc, qui s'appelle Piper Sandler, donc une banque américaine qui prend le pouls de ces ados. Et ils nous sortent des stats qui sont assez intéressantes. Et là, donc, je voulais en partager quelques-unes avec vous que j'ai trouvées plutôt fascinantes pour certaines et intéressantes pour d'autres. Donc, on sait que Nike, par exemple, reste la première marque préférée des ados sur le côté des chaussures. Mmh. Mais on a une forte montée en puissance de New Balance. Donc ça, c'est assez intéressant quand on s'intéresse à l'univers du footwear. Et dans le secteur de la beauté, on voit que c'est quand même encore une forte priorité chez les ados. Donc les dépenses ont atteint un record depuis 2018. On est à $339 par an dépensé. Et majoritairement, ces dépenses se font en physique, donc pas encore en e-commerce.
On va au magasin pour se maquiller et pour se parfumer.
Exactement, ce qui semble assez logique, mais 85% des ados préfèrent les magasins. Ensuite, du côté des réseaux, on pensait que Insta était en perte de vitesse, mais en fait non. On voit une forte remontée, donc plus 7% donc par rapport à TikTok, qui lui chute, mais qui reste donc l'app des réseaux sociaux préférée des ados, mais second Instagram, qui revient assez fort. Ensuite, stat très intéressante, il y a un tiers des ados qui ont un casque de réalité virtuelle. Donc c'est assez énorme, c'est 3% de plus que l'automne dernier. Donc il y a peut-être un effet Apple Vision Pro.
Un ado sur 3 aux États-Unis qui est équipé d'un Vision Pro ou
non, pas Vision Pro peut-être pas, mais
oui,
plutôt
ou équivalent peut-être moins cher.
Exactement, ouais, moins cher. Ouais. Et ces ados, l'utilisation a aussi augmenté. Donc il y en a 31% qui vont l'utiliser une fois par semaine, ce qui est assez énorme. Donc on voit que ça prend un peu. Et la stat que j'ai trouvée assez fascinante, c'est le taux de pénétration de l'iPhone chez les ados. Donc on a 85% des ados qui ont un iPhone et il y en a 86% qui pensent acheter un iPhone pour le prochain téléphone. Donc c'est vraiment énorme, je trouve.
Voilà, les amoureux de la marque et qui ne veulent pas sortir de l'écosystème iPhone. Non. Très intéressant cette petite revue de chiffres. Un mot, puisqu'on parle de dépendance à Apple, nous allons parler d'une économie de la dopamine. C'est ce que vous me disiez en préparant cette émission. On est en train de passer d'une économie du divertissement, tout simplement, à une économie hormonale, de la dopamine. Expliquez-nous.
Ouais, c'est ça. En gros, on voit qu'aujourd'hui, tout semble aller plus vite. Et ça, c'est Ted Gioia qui nous parle de ça. Il nous dit qu'on est passé d'une industrie du divertissement à une industrie donc de la distraction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est du swipe, du scroll, tout est fait pour être consommé très rapidement. Donc, on le voit partout, ça. On peut le voir dans le sport. Avant, on jouait un sport. Aujourd'hui, on parie. Avant, on lisait des articles de journaux un peu plus longs. Aujourd'hui, on va lire tout ce qui est un peu plus clickbait.
Avant, on regardait un match en entier. Maintenant, on regarde les meilleurs moments.
Exactement, c'est ça. Donc, il y a plein de choses. Avant, on regardait des films, des séries télé. Aujourd'hui, on passe essentiellement notre temps à regarder des reels sur TikTok ou sur Insta. Donc, c'est vraiment... Voilà, tout va plus vite. Et en fait, ça, c'est pas une tendance parce que notre cerveau, il a vraiment un terreau, on va dire, addictif. Donc, en fait, ça va être assez difficile d'en sortir, je pense, on pense. Et donc, cette industrie de la dopamine, elle peut être intéressante pour nous parce que ça veut dire plein de choses. En fait, ça peut vouloir dire, un, est-ce que les Disney, etc., ont un avenir dans cette industrie-là? Est-ce qu'il faut pas aller plutôt voir des Meta, des Apple, etc.? On parlait du Vision Pro à l'instant. Donc, plein de questions. Et l'autre question, c'est la santé mentale. On se rappelle qu'au 19e, avant le 19e, se laver les mains, c'était vu un peu comme quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on est à peu près à ce niveau-là aujourd'hui en se disant que l'industrie de la dopamine peut avoir un impact extrêmement fort si, du coup, on ne fait rien? Ça aussi, c'est une piste à savoir. Est-ce que les boîtes qui vont essayer de régler tous ces sujets de santé mentale pourront du coup être intéressants pour les investisseurs? Plein de questions ouvertes, on ne sait pas trop aujourd'hui, mais ça reste un sujet extrêmement intéressant et extrêmement important.
L'impact sur notre santé et santé mentale et sur nos investissements de cette mutation de l'économie du divertissement en économie de l'excitation, on va dire,
c'est ça,
la
ouais.
dopamine. Merci beaucoup Johan pour cette revue de presse. On va continuer à parler de ces sujets et d'autres. On va parler notamment des ETF Bitcoin avec notre équipe de débatteurs d'ici quelques minutes. Mais avant ça, on passe une tête chez nos traders.
Tout pour investir, le match des traders.
Ce matin, nous avons d'une part Mathieu Cerrone de Galileo Trading et Andrea Tueni de l'équipe Saxo Bank. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
On est en train de parler avec Antoine de notre CAC qui est en belle progression ce matin, qui surperforme l'Europe boursière. Andrea, vous nous dites, est-ce que, attention, on ne serait pas dans un faux rebond? Expliquez-nous.
Bah, la question aujourd'hui, c'est qu'il y a deux thématiques qui dominent sur les marchés. Il y a d'un côté les résultats d'entreprises qui vont prendre de l'épaisseur petit à petit. Ça a commencé, mais ça va continuer, ça va s'accélérer. On va avoir notamment Netflix qui va publier après la clôture aux États-Unis. Donc on va avoir quand même une grosse importance pour surveiller justement ces résultats, voir l'impact que ça va avoir. S'il y a des déceptions, sachant encore une fois la valorisation de certaines valeurs, notamment de la tech, ça peut avoir des conséquences assez fortes sur les marchés. D'un autre côté, le marché est en train de repricer les politiques monétaires des banques centrales. On a aujourd'hui plus que une première baisse de taux qui est pricée en novembre du côté de la Fed. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé l'année avec 6 à 7 baisses de taux pricées par le marché. Donc là, du coup, la correction qu'on a vue sur les dernières séances, la baisse qu'on a observée notamment sur les marchés américains, bon, elle se légitime, elle se justifie par ces éléments-là, par le repricing qui est en train de s'opérer. Mais du coup, si on rentre dans une saison de résultats qui peut être compliquée avec des entreprises qui déçoivent, qui publient en dessous du consensus, là, pour le coup, on va avoir ces deux facteurs, ces deux catalyseurs qui vont s'ajouter et qui peuvent ajouter une pression baissière sur le marché. Alors, il n'y a pas forcément encore aujourd'hui la théorie du faux rebond. Il faut juste, en tout cas, être beaucoup plus méfiant parce qu'on est sur des niveaux qui sont des niveaux qui peuvent être un petit peu compliqués. 7875, 7812, c'est des niveaux de support. Derrière, sinon, c'est un retour sur un ancien gap, hein, sur le CAC entre 7475 et 7550. Donc, il y a quand même un écart qui est assez important qui peut se créer si jamais on venait à casser des niveaux de support comme 7875 et 7812. Par contre, on a toujours une capacité de rebond sur ce marché. Si on reste au-dessus, on peut rebondir. On peut revenir sur des niveaux de résistance tels que 8120. Donc voilà, il faut observer un petit peu à la fois la saison de résultats d'entreprise et voir si du côté des marchés américains, on continue de repricer cette politique monétaire des banques centrales de manière un peu forte.
Merci Andrea. Méfiance aussi de votre côté, Mathieu Cerron ?
Oui, bien sûr. Et on est passé d'une période d'optimisme, pour ne pas dire d'euphorie, qui aura duré 5 mois environ de fin octobre à fin mars, à une période de doute avec, comme le disait Andrea, la perspective de baisse des taux qui s'est éloignée aux États-Unis, à maintenant une petite phase d'inquiétude. Alors l'inquiétude, on la voit pas tellement sur les indices, sur les prix, sur les marchés actions, mais on le voit au niveau de la volatilité. La volatilité implicite a pas mal augmenté ces derniers temps. Vous voyez, moi, je vous répétais ces dernières semaines que la volatilité était très basse, qu'il fallait en profiter pour prendre des initiatives à base d'achats d'options. Ben là, la volatilité maintenant, elle est beaucoup plus haute. On a les taux aussi, les taux souverains américains qui sont sur des plus hauts de fin d'année dernière. Donc, on sent des petites tensions par-ci, par-là. Et je parle même pas de la géopolitique, bien évidemment. Donc, on a des marchés qui alternent des phases d'espoir, de doute à une vitesse assez folle. Parfois, on a deux séances en une. Ça a été le cas en début de semaine, mardi, même hier, la situation était un petit peu particulière. À chaque fois, notamment au sein du CAC, on a des valeurs qui surperforment. Hier, c'était LVMH, la plus grosse pondération du CAC, qui a dopé l'indice français. Aujourd'hui, c'est Schneider, qui est la troisième plus grosse pondération du CAC. Schneider pèse 7%. Elle prend environ 3%. Donc, elle explique à elle seule la moitié de la hausse du CAC aujourd'hui. Donc, comment aborder ces marchés-là? Eh bien, moi, je joue une zone de neutralisation à moyen terme. On évoquait ces derniers temps un objectif d'un repli modéré qui se situerait vers les 7850-7900 points sur le CAC. Cet objectif-là, il a été atteint. On s'est arrêté juste au-dessus des 7900 points hier avant-hier. Donc cet objectif-là, il est atteint. Donc on va dire que en atteignant ce niveau-là, on arrive au bout de quelque chose. C'est-à-dire que si on se maintient au-dessus de ce niveau-là, le pari que je fais moi pour l'instant, si on se maintient au-dessus de ce niveau-là, eh bien on reste dans une logique de retracement, dans une tendance de fond. Là, je parle d'une tendance moyen-long terme qui reste haussière. En revanche, si on commence à s'installer en dessous, là, on aurait un warning à moyen terme. Donc, on a un warning à court terme qui est allumé depuis quelques temps, et j'en parlais à votre antenne, depuis la rupture des 8120 sur le CAC, un petit warning s'est allumé. Bon, depuis, on va dire qu'il s'est un petit peu éteint, puisque on latéralise plus qu'autre chose, mais attention justement à cette zone des 7850-7900, il ne faudrait pas l'enfoncer. Donc, pour prendre des initiatives à très court terme, ben moi, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de facilité, on va dire, d'un point de vue psychologique, à travailler la vente plutôt qu'à l'achat, mais on peut quand même travailler les deux sens. Ce matin, moi, j'ai vendu un petit peu dans la zone des 8025-35, je suis prêt à compléter en double top avec hier, donc sur les plus hauts d'hier, dans la zone des 8055-60, et sur retracement, bah, objectif 8000, 7970-75, jusqu'à éventuellement 7920. Voilà un petit peu la stratégie de fond.
Merci beaucoup, messieurs, pour la lecture de la séance du jour, les niveaux techniques à surveiller, ce que vous allez faire, d'avoir partagé ça avec nos auditeurs et nos auditrices. Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading d'une part, et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank de l'autre. À la semaine prochaine, messieurs. Pour l'heure, on continue de débattre des actualités qui vous concernent en tant qu'investisseurs et investisseuses.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Non, Géraldine Métifeux, rien sur le PSG. La pub est alimentée par des discussions internes sur le foot. C'est très difficile de tenir une émission de finance avec vous. Bonjour Géraldine Métifeux.
Bonjour Laurent.
Associée gérante d'Alter Egal et fan du PSG. Johan Lopez, fondateur de Snowball, qui est toujours avec nous.
Et fan de l'OM.
C'est
pas grave.
Et Jonathan Anglove, fondateur d'Agesso Capital et d'Aircall. Bonjour Jonathan.
Salut Laurent.
Jonathan sera notre coach tout à l'heure. Mais avant ça, nous devons débattre, non pas de la Ligue des Champions, mais des ETF. Bitcoin. Car oui, nous pouvons être investis en ETF Bitcoin sans être américain vivant aux États-Unis, sans être hongkongais vivant à Hong Kong. Donnez-nous la recette, Géraldine.
Alors, c'est pas moi qui vous la délivre, c'est la SFC, l'équivalent de la SEC à Hong Kong, qui a décidé, alors, c'est plutôt dans les pré-agréments, mais de mettre en place des ETF crypto, alors pas que sur le Bitcoin, mais également sur l'Ether, ce qui fait déjà une différence avec son homologue américain. Et là où c'est en plus interdit sur la Chine continentale, donc ça relance l'intérêt pour l'Asie. Et la particularité, je pense, c'est sans doute le fait qu'on puisse l'acheter en nature. Donc vous pouvez arriver avec vos Bitcoins ou vos Ether et acheter... Exactement. Et sortir tout ça en ETF et après ressortir en autre ETF ou à nouveau en nature. Donc c'était assez rigolo. Alors moi qui ne suis pas ni très ETF ni crypto, vous noterez que j'ai essayé de trouver une actu un peu différente de d'habitude. Hein.
Justement, qu'est-ce que la conseillère en gestion de fortune, de patrimoine, pose comme regard sur ces objets?
Alors, nous, pour l'instant, on est encore un peu sur la catégorie OVNI, mais parce qu'il y a un côté extrêmement spéculatif, c'est-à-dire que notre métier, c'est pas le casino ou c'est pas le trading intraday, c'est une construction sur le long terme. Donc, conseiller aux clients d'investir sur les cryptos, c'est pas proprement un conseil, c'est-à-dire que on considère que si ça va monter, on peut y aller, mais vous voyez, il y a quand même des gros mouvements sur les marchés. Moi, je me souviens que sur ce plateau, un jeune Amaury, dont je tairai le nom de famille pour des raisons évidentes, m'expliquait qu'à coup sûr, on serait sur les 100 000 euros. Bon,
les attendus. Il y a quelques paris avec des gens de la rédaction, ça va être tout double, je pense.
Ouais, double, j'imagine.
J'ai le même pari dans mon agenda.
C'est vrai?
Ouais, et tu m'as non, mais moi je suis partisan de ça ne va pas atteindre 100 000 euros.
C'est 100 000 dollars, pour être précis.
100 000 dollars.
Voilà, la parité, et on n'est pas non plus avec le yen, donc on est proche quand même, pardon. Mais le regard qu'on porte, c'est que. On va s'y intéresser de plus en plus. Il y a une réglementation qui arrive en France, on n'en parle pas beaucoup, mais qui vient aussi par l'Europe, et notamment qui va concerner les conseillers en gestion de patrimoine pour qu'on puisse beaucoup plus conseiller ce type d'actifs, parce que dans la jeune population que Johan connaît mieux que moi, il y a quand même une véritable demande. Donc on va s'y intéresser un peu plus, je vais d'ailleurs moi-même me former un peu plus à la crypto, et le fait qu'on ait de plus en plus de possibilités d'avoir une liquidité sur les marchés avec des ETF, sans passer par des choses un peu particulières, d'avoir des comptes trop à l'étranger, etc. Je pense que ça va faciliter l'accès aux cryptos. Alors après, est-ce que ce sera un boom pour que ça monte, ou est-ce que, au contraire, ça donnera l'occasion à quelques baleines de se démunir de leurs cryptos, dont ils ne savent plus que faire. On verra en fait quel sens ça donnera. Mais ça a forcément un attrait, un intérêt. Alors je ne sais pas encore lequel précisément, mais c'est compliqué de rester à l'écart des cryptos aujourd'hui, comme c'est compliqué de rester à l'écart de l'IA, comme c'est compliqué de rester à l'écart de l'ESG, même peu importe ce qu'on en pense.
Johan, vous faites non de la tête.
Non, je faisais oui, non, j'étais assez curieux de savoir où.
Non, oui, non.
Non, il est curieux.
Non, curieux de savoir où est-ce qu'on peut acheter ces produits, enfin, où est-ce qu'on pourra acheter ces produits.
Sur la bourse de Hong Kong.
En crypto directement.
Yep.
Ah ouais.
Tu viens avec tes cryptos et tu prends tes ETF.
Ok, non, intéressant.
Ouais. Il faut aller en
Alors, t'as China, alors attends, parce que du coup, t'as China Asset Management, Harvest Global Investments et Bosera Asset Management qui sont les premiers candidats.
Ok.
Donc, voilà. Ouais.
Non, mais moi, les cryptos, oui, non, mais si, enfin, je suis pas assez. Oula. Enfin, je suis pas très d'accord avec ce que tu dis.
Est-ce que tu peux ne pas être d'accord en gardant l'axe dans le micro, Yann, que tout le monde puisse t'écouter?
Non, ce que je disais, c'est que je pense que oui, c'est une catégorie d'actifs qu'on peut pas, en effet, négliger et qu'il faut justement s'y mettre, selon moi. En tout cas, si on est convaincu par les fondamentaux de Bitcoin, Ether, etc., c'est comme tout, hein, comme quand on investit dans une entreprise. Donc si on est convaincu, je pense que il faut y aller. Si on n'est pas convaincu, il faut pas y aller.
En tout cas, on s'occupera de vous décrypter le halving qui devrait avoir lieu demain avec Amaury Tonquédec et notre team d'experts. Tous les 4 ans, vous savez, la production de Bitcoin est divisée par 2. Normalement, c'est programmé quelque part, effectivement, entre demain, samedi. On ne sait pas trop, mais c'est imminent. Le Bitcoin a déjà battu des records depuis le début de l'année. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Amaury et notre team d'experts viendront décrypter cela demain dans Tout pour investir. D'ici là, nous avons une grande discussion à avoir sur la nature. Faut-il subventionner la nature? C'est la question que Yoann nous pose ce matin.
Ouais, mais en fait, je pense que c'est la question qu'on se pose depuis des décennies. C'est comment mettre le prix en fait sur quelque chose qui n'a pas de prix, l'air, la terre, etc. Donc en gros, c'est est-ce que cette nature nous a subventionné pendant des années gratuitement et aujourd'hui, ben on voit que on atteint certaines limites, certains niveaux. Donc est-ce que il serait pas temps justement à notre tour de la subventionner?
Pas.
Vas-y.
Non, mais en fait, c'est un bien public, c'est-à-dire que juridiquement parlant, l'air, l'eau, tout ça, enfin, l'eau, ça dépend, parce que dans les infrastructures, on va la retrouver, mais ça reste un bien public. Et sur la partie subvention, à dire vrai, j'ai envie de dire que toute la partie énergie renouvelable ressemble quand même à une économie très subventionnée déjà. Donc après, je sais pas si est-ce qu'on doit aller plus loin. Et comment tu mets un prix sur quelque chose qui appartient à tout le monde?
Non, mais en fait, moi ce que je vois, et je pense beaucoup à la construction, hein, quand on parle d'un petit peu subventionné.
Et
tout ne passe pas par, tout ne passe pas par les subventions. Je pense que, en fait, les professionnels, quels qu'ils soient, notamment dans l'immobilier, quand on construit, et donc il y a une nouvelle loi là, qui est sortie, c'est la loi ZAN, zéro artificialisation nette, j'ai toujours du mal à dire ce mot, qui est assez intéressante, qui dit en fait, si vous voulez construire, donc bétonner un endroit, il faut que vous créiez ailleurs
une compensation pour les crédits carbone.
Et je trouve ça bien. Et donc là, finalement, quel est le problème? Et c'est la même chose, par exemple, pour le commercial et l'habitation, ce qui a été fait.
Je pense qu'Anne Hidalgo est au courant de cette information.
Le PLU bioclimatique. Hein. Le PLU bioclimatique, maintenant, interdit complètement la suppression d'espaces verts. Et donc, je pense que c'est très important. Alors, on parle beaucoup tout le temps en France, on adore parler de subventions. Et moi, je ne suis pas toujours très subventionné. Je préfère dire en fait, il y a des acteurs économiques. Il faut essayer de que eux fassent des transitions. Dire, on veut construire, je dis n'importe quoi, 50 000 mètres carrés sur un terrain qui était historiquement agricole ou peu importe ce qu'il était. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer finalement ce verre qu'on est en train de voler à la ville, à la nature? Par enlever peut-être du béton ailleurs. Et on le voit, hein, moi je le vois tous les jours, il y a partout des ZAC complètement abandonnés, des ZAC zones commerciales, et des ZEDI zones industrielles, pareil, qui sont à l'abandon, qui ont été faites dans les années 60-70, et qu'on laisse mourir. Et je pense que ça serait bien de dire aux promoteurs, de dire, très bien, on vous donne ce permis de construire pour ça, mais donc qu'est-ce que ça veut dire pour tel ZAC? Est-ce que vous pouvez pas un petit peu réduire votre empreinte et donc peut-être détruire la ZAC et lui rendre la nature?
Mais là, du coup, on n'est pas sur du bien public, quoi. Enfin, donc en fait, par rapport à la nature qui a un sens large, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que moi, je suis pas hyper écolo. En vrai, ça pour le coup, ça fait sens. C'est-à-dire qu'on rétablit un peu les équilibres sur la subvention de la nature à proprement parler. Je vois pas la mécanique. Je vois bien l'intérêt économique. Enfin, comment dire, je vois bien l'idée générale qui est derrière. Je vois pas la mécanique juridique qui nous amènerait à faire ça.
Par exemple, si on prend un exemple qui existe aux États-Unis, c'était le Forest Resilience Bond. En gros, c'était des investisseurs particuliers finançaient la restauration de forêts pour éviter les feux de forêt, etc. Et ces investisseurs étaient remboursés par les institutions publiques qui bénéficiaient.
Bah là, on subventionne les investisseurs, en fait.
En soi, c'est la nature qui en bénéficie in fine.
Les impôts publics qui financent.
Voilà.
Ça va être un peu, compliqué, mais ceci étant, en France, t'as les groupements fonciers agricoles ou viticoles. Viticoles, ça marche moins bien. Enfin, c'est pas mal. Mais c'est pas mal, on est payé en bouteilles, c'est pas con.
Vous nous parlerez de ça la prochaine fois?
Avec plaisir, je vais même le noter.
Faites vos devoirs. Merci beaucoup à tous les trois, Géraldine Métifeux d'Alter Egal, Yoann Lopez de Snowball, dont on peut retrouver la plume sur la newsletter Snowball. Et puis, Jonathan Anglove, qui sera notre coach tout à l'heure. Jonathan, on va réfléchir sur un tout autre sujet. Faut-il investir dans les petits espaces? On va parler de caves, on va parler de box.
Stockage.
Et de stockage. Mais oui, mais si vous voulez mettre du vin quelque part, c'est pas mal. Et ensuite, comme vous n'avez plus le droit d'avoir une voiture, si vous collectionnez des voitures, il faut bien les ranger quelque part. Et vu que vos appartements, de toute façon, réduisent, il faut bien ranger le désordre.
Et on déménage de plus en plus.
Voilà. On fera ce sujet très sérieusement d'ici un gros quart d'heure. Vous êtes avec nous, vous réagissez à cette antenne. Je suis branchée sur LinkedIn. Vous nous écrivez en message privé ou à l'adresse directe @bfmbusiness.fr. Nous marquons une petite pub et après ça, c'est Nicolas Dose qui arrive avec son vitriol. Enfin, en tout cas, celui de la Cour des comptes. On va parler de critique. À tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Notre Notre dealer d'informations économiques arrive ce matin avec sa dose de vitriol. Pas la vôtre, Nicolas, celle de la Cour des comptes. Le Haut Conseil des finances publiques, rattaché à la Cour des comptes, a des mots très très durs à l'endroit de Bercy et d'Emmanuel Macron. Que dit-il ?
Alors il dit, si je le dis avec mes mots cette fois-ci, il dit « rien ne va ». Hier, il a rendu un avis sur ce qu'on appelle le PSTAB dans le jargon, le programme de stabilité 2027 que la France a fourni à Bruxelles, c'est-à-dire sa feuille de route macro-éco, preuve de croissance, de dette, de déficit, comment ça va se passer. Et donc là, les mots, évidemment, sont très feutrés et polis. Mmh. Hein, on est sur un document de magistrat quand on parle de la Cour des comptes, mais j'ai jamais vu des mots aussi durs. Et effectivement, c'est du vitriol. Alors, sur la croissance, le mot qui va à côté est à peu près classique, surévalué. C'est un mot, enfin, les mots ont leur sens. C'est surévalué. Après, vous avez sur les comptes publics manquent de sincérité. C'est un sens juridique, hein, le mot sincérité, quand on parle justement des comptes publics. Ensuite arrivent les économies qui sont prévues. Elles sont mal définies et elles sont à ce stade lacunaires. Jamais vu encore des mots comme ça. Et enfin, la trajectoire de retour sous les 3% de déficit public en 2027 manque de cohérence. Manque de sincérité. Manque de cohérence, mal renseigné et lacunaire, c'est lourd tout de même. Et pour paraphraser, les experts de la finance à Bercy, dans ce genre de situation, diraient que la trajectoire de nos finances publiques et de notre macroéconomie, c'est un oiseau qui ne vole pas. Et le mot important, c'est le mot manque de sincérité, insincérité. C'est un mot juridique. Et si on le sort du domaine juridique, ça veut dire mentir.
Oui.
Ça veut dire tromper délibérément. C'est lourd quand même.
Est-ce que vous savez comment ce Haut Conseil des finances publiques, rattaché à la Cour des comptes, justifie d'être aussi critique, d'être aussi sévère au sens juridique et puis au sens où on l'entend plus communément ?
Il y a deux éléments. Le premier, c'est le chiffre inatteignable. Vous voulez être en dessous de 3% de déficit public ? Bon, d'abord, il va falloir renseigner vos économies et qu'elles sortent du côté lacunaire. Et puis, il en faut 65 milliards d'aujourd'hui à 2027. 65 milliards d'euros d'économies, on n'a jamais fait ça. D'ailleurs, on ne le fera pas. On n'y arrivera pas. Parce que c'est toujours le dernier kilomètre qui est compliqué. J'annonce 10 milliards en urgence en allant tailler des crédits de réserve qui seront une poire pour la soif en cas de coup dur. Enfin, on n'a pas des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de crédits de réserve que l'on peut s'amuser. Donc plus on va annoncer des économies, sans doute 20 supplémentaires en plus des 20 de cette année en 2025, ouais, plus les économies seront compliquées, plus elles feront mal. Plus on en ressentira les effets. Parce qu'on ne va pas être que sur du crédit de réserve qu'on va pouvoir geler. Et deuxième élément, ben, elle justifie ça parce qu'elle considère qu'il y a des paris du pouvoir qui sont intenables. C'est quoi les paris du pouvoir ? Il y a de l'épargne, les Français vont prendre dans leur épargne pour consommer. Rien depuis 4 ans. Hein. On a créé des emplois, a priori, bon, on va quand même réussir à avoir un niveau d'emploi qui va se tenir. Pas du tout évident, ça. On a perdu des gains de productivité depuis 2019, mais ils vont revenir. Je ne les vois pas venir, moi. Et puis, le commerce mondial, il va résister. Et ben, quand vous faites 4 paris comme ça pour justifier vos espérances de croissance et de dynamique économique, vous faites des paris un peu audacieux. Voilà ce que dit, en gros, pour parler comme les jeunes, le Haut Conseil des finances publiques.
Voilà, si Nicolas nous parle aussi comme les jeunes, rien ne va plus.
En vrai.
Que en vrai, ça. Que préconise ce Haut Conseil des finances publiques pour rendre cette feuille de route de l'exécutif plus crédible, parce que la critique est facile, mais maintenant, est-ce qu'ils ont des solutions ?
Oui, ils ont deux solutions. Un, vous tenez pas parole et vous abandonnez les 3% de déficit public pour 2027. Ou alors, vous tenez parole. Mais dans ces cas-là, vous allez renseigner les 65 milliards d'euros d'économie et vous allez indiquer, parce que 65 milliards d'euros d'économie en quoi ? 25, 26, 27 ? 3 ans. C'est récessif. Hein. À ce niveau-là, avec des montants pareils, autant la dépense publique n'est pas un moteur de croissance et d'activité, mais enfin, quand on entaille 65 milliards, c'est récessif. Donc, vous en renseignez les milliards et vous renseignez les effets de décélération que ça aura sur l'activité, donc vous révisez sensiblement à la baisse, prévoyant une croissance. Première recommandation. Deuxième recommandation, vous arrêtez immédiatement toute promesse de baisse d'impôts. Donc ça veut dire qu'en 2025, vous ne faites pas les 2 milliards promis aux classes moyennes, et vous ne faites pas la poursuite de la suppression de la CVAE dans les impôts de production promis aux entreprises. Voilà ce que dit la Cour des comptes. Après, il y aura un débat, mais sans vote, à l'Assemblée nationale sur ce programme de stabilité, ce PSTAB, qui se tiendra le 29 avril. C'est bien, ça me fait du gras à moudre pour Gabriel Attal sur BFM TV ce soir.
Rendez-vous donc ce soir, vous l'avez entendu sur BFM TV.
20h50.
Merci beaucoup Nicolas, que vous pouvez retrouver en podcast et en replay et sur YouTube d'ici 20h50 sur BFM TV ce soir. Cette chronique est à retrouver, vous l'avez entendu, sur YouTube, où vous pouvez aussi participer à la discussion, à la surévaluation, à la sincérité, à la définition, à la cohérence de cette chronique. Merci Nicolas. À suivre, le sentiment de marché de Franklin Pichard.
Tout pour investir en portefeuille.
Dans votre portefeuille, Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Vous allez bien ?
Bonjour.
Est-ce que vous êtes de bonne humeur, comme les investisseurs financiers ?
Oui.
L'humeur est plutôt changeante, pas très stable cette humeur. Racontez-nous.
Oui, mais quand vous voyez les marchés dévisser de 1,40, une séance reprendre 1,40 le lendemain, bon, finalement se tasser, finir en hausse de 0,60. On voit à côté de ça le VIX, l'indice de volatilité qui explose littéralement. Les investisseurs ne savent pas trop sur quel pied danser et du coup préfèrent acheter de la volatilité et vendre de la volatilité pour couvrir un petit peu leur position. On voit des dégagements. On a eu la publication d'LVMH hier, mais le titre avait baissé de 13% au cours des 4 dernières semaines. Et les anticipations du marché étaient dures sur LVMH et elles ont été saluées hier. On en avait parlé il y a une quinzaine de jours en l'évoquant et c'est l'occasion de revenir sur la valeur, sur le secteur, très fortement pondéré dans l'indice CAC 40. Et par conséquent, ceux qui avaient vendu sur des plus hauts peuvent, sur les niveaux de 800 et quelques, revenir sur le titre. Les analystes ne s'y trompent pas. 28 d'entre eux sont toujours à l'achat ou à conserver sur le titre. Un moyen de jouer la valeur. Ceux qui ont du Hermès, qui publiera la semaine prochaine, peuvent être confiants. Si LVMH a réussi cette prouesse, Hermès la fera également, vraisemblablement. Donc, et idem pour le secteur en général, Richemont et compagnie. Donc voilà un petit peu ce qui met un peu de baume au cœur aux investisseurs. Après, les résultats des banques américaines, et puis je vous écoutais tout à l'heure avec les publications de Danone, d'Edenred, on a un élan. Voilà, on se sent un petit peu plus serein, comme chaque saison des publications depuis maintenant 2 ans, où tout le monde se dit, ça y est, on va se prendre les pieds dans le tapis. Eh bien, il semblerait qu'une fois de plus, on ne se prenne pas les pieds dans le tapis.
Il semble que le pire soit évité. Plutôt un bon départ. Vous nous avez parlé des banques. Des banques américaines, si on élargit à l'économie américaine. Un petit peu insolente, cette économie.
Oui, c'est ça. C'est le problème. C'est qu'on a une inflation persistante. Donc, les investisseurs, les opérateurs sont en train d'intégrer le fait que, est-ce qu'on aura une hausse voire même au mois de novembre. Est-ce qu'on en aura une en 2024? C'est véritablement la question. Et en tout cas, par rapport à l'économie américaine, par rapport à l'anticipation qu'ont les investisseurs, il y a beaucoup de questions et d'incertitudes et d'hésitations sur le T2, T3. Mais avec un optimisme débridé, j'ai presque envie de dire, pour la fin de l'année, où on aura quand même des mouvements vraisemblablement. Et si on n'a pas de mouvement de baisse des taux, on aura une anticipation pour 2025. Donc les investisseurs sont en train de faire le grand écart. On est au mois d'avril, mais font le grand écart, se disent que peut-être qu'on aura un deuxième et troisième trimestre à plat, avec quelques consolidations, pas des choses formidables à attendre, mais qu'il faut rester positionné pour la fin de l'année et pour 2025. Et cette économie américaine, vous en parliez à l'instant, il se trouve que j'étais avec des investisseurs et des gérants suisses hier, et ceux-ci me disaient, en ce qui concernait les investisseurs, ils me disaient, moi, mes gérants me font basculer entre 70 et 80% de mon portefeuille sur les valeurs américaines.
Là, vous nous dites, il faut continuer à se renforcer en Amérique dans les portefeuilles.
Oui, typiquement, on voit, par exemple, à travers ce que dit Nicolas, on risque, si on doit faire des économies fiscales, il y aura des effets qui seront un peu négatifs sur l'économie.
Vous pensez à quoi ?
On aidera moins les entreprises, on aidera moins la compétitivité, et par conséquent, on va être avec une économie qui fonctionnera peut-être un petit peu moins bien et qui aura du mal à maintenir une croissance. Et en tout cas, quand on regarde la croissance européenne par rapport à la croissance américaine, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Et dans cet environnement-là, donc, les investisseurs continuent de dire, comme c'est depuis toujours, depuis la nuit des temps, il vaut mieux être en période un petit peu compliquée, incertaine, être du côté des valeurs et des marchés sur lesquels on a une visibilité affirmée, plutôt que sur une zone où, oui, on baissera les taux en juin, Christine Lagarde l'a dit, mais cette bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle. Ça veut donc bien dire qu'on a une économie qui ralentit et que maintenant, il faut baisser les taux pour essayer de la soutenir et de la relancer. Les États-Unis, seraient dans une logique où même ils devraient monter les taux et non pas les baisser. Peut-être qu'ils ne les baisseront pas ou qu'ils les baisseront peu en 2024, mais on a des indicateurs économiques, une consommation des ménages, on l'a vu en début de semaine, qui montre que véritablement, on a quelque chose de très tonique de ce côté-là de l'Atlantique et qu'il faut, nous, pas forcément passer à côté et ne pas négliger cette poche américaine.
Si on finit sur des valeurs, cher Franklin, vous nous dites, voilà, avec la croissance soutenue, les États-Unis, c'est la zone qu'il faut renforcer en portefeuille. Vous pensez à des valeurs en particulier que vous...
Oui, alors, on aime bien et jouer plusieurs secteurs. Vous avez Micron Technologies, en plus ce matin, hier plus exactement, qui a annoncé qu'ils allaient bénéficier d'une aide du gouvernement américain, 6 milliards de dollars, pour construire des usines de puces, pour pouvoir faire des puces américaines et être moins dépendant du marché chinois.
Une loi qui leur permet d'aller fabriquer plus facilement des semi-conducteurs sur leur territoire.
Exactement, avec une aide de 6 milliards. Donc Micron est un titre qui nous intéresse beaucoup, qui a connu une progression, une petite correction. Hier, il rebondissait, c'est une bonne idée. Le pétrole américain, on n'en parle pas suffisamment, mais ils sont très très compétitifs. Ils ont une production supérieure à certains pays du Golfe. On peut acheter Occidental Petroleum. C'est un titre que nous regardons et que nous achetons. Apple, qui retouche et plus bas, qui a du mal à rebondir, mais qui, sur du moyen terme, est en train de signer des accords avec Google pour rattraper son retard dans l'IA. Ça peut être quelque chose à voir. Et puis, on a eu la publication d'hier de United Airlines. Nous, on regarde plutôt Delta Airlines, qui n'a quasiment rien fait sur quelques années. On considère, grâce à au taux de remplissage des avions, et puis surtout aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, cette capacité des transporteurs à faire passer des hausses de prix et de continuer de remplir leurs avions. Et puis un titre que tout le monde connaît, mais que le fil rouge d'un portefeuille en tech, c'est Amazon.
Ouais.
Là, je ne vois pas un analyste qui soit négatif sur Amazon. Donc ceux qui veulent mettre un doigt sur une valeur américaine, qui n'en ont pas forcément assez ou tous, et en tout cas pas celle-là, je pense qu'il faut avoir Amazon.
Amazon, Delta Airlines, Apple, Occidental Petroleum pour jouer le pétrole américain et puis Micron, vous nous disiez en début de séquence. Pour conclure, un mot d'ASML parce que AMH, sans surprise, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais de l'autre côté du spectre, on en a pas mal parlé hier, ASML, est-ce que justement la baisse du titre offre un point d'entrée ?
Écoutez, oui, selon nous, en plus, c'est étonnant, parce que LVMH, tout le monde s'attendait à un titre décevant et le titre rebondit. ASML avait certes moins corrigé avant, et ASML aujourd'hui a bien corrigé. Et du coup, les investisseurs et les analystes ont des objectifs au-dessus de 1000 euros pour ASML, qui vaut autour de 850 euros.
Ouais.
On a donc un potentiel d'appréciation de 15 à 17% sur le titre pour atteindre ses objectifs. Et on sait pourquoi, et c'était anticipé, pourquoi ces chiffres ne seraient pas bons. Les carnets de commandes seraient mitigés, mais le rebond se fera sentir à partir du deuxième semestre 2024. Par conséquent, ce point d'entrée, ce trou d'air, peut être mis à profit pour rentrer sur la valeur.
Voilà, ASML qui se négocie, vous l'avez dit, autour de 858 euros. Peut-être un point d'entrée. Merci Franklin pour ce regard sur l'humeur des investisseurs financiers et peut-être les quelques actions que vous pouvez prendre en bourse pour jouer justement cette humeur fluctuante. Merci Franklin Pichard et l'équipe de Kipling Finance avec nous dans Tout pour Investir. Cette séquence, si vous l'avez attrapée en cours de route, est à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application BFM Business. Et puis je vous précise que l'actualité de la bourse et l'ouverture de Wall Street, c'est l'après-midi en direct sur BFM Business, BFM Bourse, l'équipe de Guillaume Sommerer, Stéphane Pedrazzi et Julie Cohen à partir de 15h30 pour suivre l'actualité boursière en direct. À suivre, nous allons parler de stockage, de box. Nous allons réfléchir à est-ce que ces caves, ces espaces de stockage représentent une opportunité d'investissement. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
15%. 15% de rentabilité, c'est peut-être ce qu'on vous promet dans cette séquence. Bonjour Jonathan Anglove.
J'adore promettre des investissements. Bonjour Lorraine.
Attention, tout investissement comporte du risque, y compris quand on met des billes dans une cave, un box ou un espace de stockage. C'est l'objet de cette séquence. On va réfléchir si c'est le bon moment d'investir dans ce genre d'espace limité, généralement obscur. En France, Jonathan, vous êtes à la tête d'Aguesso Capital et d'Aircall. Vous allez nous expliquer ce que vous pensez de ces opportunités d'investissement.
Écoutez, oui, c'est assez intéressant parce qu'on a, un petit peu oublié durant pas mal d'années les caves, enfin le stockage en général. On a beaucoup pensé au parking, hein, on le montre juste là. On a aussi également beaucoup pensé aux caves classiques. Mais on oublie qu'aujourd'hui, de plus en plus, les personnes, que ce soit dans les grandes villes ou dans les plus petites villes, déménagent souvent, ont des plus petits appartements. Historiquement, les appartements qu'on construisait en 1930 étaient bien plus grands que les appartements qu'on construit aujourd'hui. Pourtant, finalement, on a toujours autant de choses auxquelles on tient. Et donc, finalement, il y a un énorme regain récemment, depuis 2-3 ans, surtout après le Covid, d'avoir sa box de stockage, pas spécialement avoir une grande cave, de pas pouvoir, notamment dans les immeubles haussmanniens classiques, où les caves sont en terre et la moindre chose qu'on met risque de pourrir. Eh bien, il y a un vrai regain pour le stockage. Et c'est intéressant parce que c'est un business qui à l'origine était opéré par des vrais opérateurs du stockage, donc des personnes qui créent un business pour stocker. On peut penser à une pièce en U, une pièce en plus, à co-stockage.
On pense à ces gros espaces de stockage un peu excentrés.
Exactement. Voilà qu'on voyait. Et récemment, il y a vraiment des investisseurs immobiliers qui commencent à s'y intéresser.
Vous voulez dire que ça s'institutionnalise?
Ça s'institutionnalise, exactement. Quel mot difficile. Oui, ça s'institutionnalise, et notamment Ardian, qui est un énorme asset manager dans le monde, qui vient de racheter Co-Stockage, justement avec cette vision de dire aujourd'hui le monde a besoin de stocker, et pour stocker, quoi de mieux qu'un espace de stockage, même s'il n'est pas au pied de son immeuble, parce qu'on l'a décrit avant, c'est pas toujours, on n'a pas toujours la bonne solution au pied de son immeuble, parce que si on a un parking, on a peut-être une voiture, et si on a une cave, elle est peut-être humide, et donc on peut pas stocker ce qu'on aimerait.
Ou pour ceux qui écoutent Tout pour investir régulièrement, occupés par du vin.
Ou voilà. Par exemple. Et donc, ce qui est intéressant dans le stockage, donc il y a deux manières d'investir dans le stockage. Ça peut être acheter des box, des box de parking classiques, et au lieu de les louer à des voitures, on peut mettre du stockage. Ou alors directement de créer son propre, enfin d'acheter, on va dire par exemple, un grand plateau d'anciens parkings inoccupés, pas très loin, soit d'une grande zone d'activité ou d'une grande ville ou proche d'un endroit d'habitation, et de créer son propre lieu de co-stockage.
Et l'opérer à petite échelle.
La bonne nouvelle, c'est que vu que c'est du stockage, ça nécessite très très peu d'investissement, contrairement à la location classique immobilier où dès qu'on a un locataire, à la sortie de ce locataire, on peut avoir des problématiques de travaux, on peut avoir des problématiques d'impayés sur de la location classique, et c'est compliqué. Dans le stockage, si la personne ne paye pas, on peut très facilement
la déstocker.
Voilà, on l'a dit. On a très peu de travaux, très peu de charges, parce qu'en général, soit on est dans un immeuble et on paye un quotient de charges très faible, vu qu'en général c'est dans des sous-sols.
Ouais.
Et si c'est notre propre lieu de stockage, je prends un exemple d'un acteur qui a récemment acheté pour un peu moins de 500 000 euros, donc c'est pas une énorme somme, je ne veux pas dire de bêtises, 3000 mètres carrés de stockage en proche banlieue. Et l'a transformé en petit box. Il a investi 250 000 euros pour faire ses petits box. Donc ça fait à peu près 750 000 euros d'investissement total. Et tout ça lui rapporte aujourd'hui un peu plus de 150 000 euros par an en louant chaque box individuellement. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors il y a quelques pièges à éviter. Attention, l'emplacement est primordial. Vous pouvez imaginer que lorsqu'on stocke du matériel auquel on tient à première vue, vu qu'on est prêt à payer pour ça, la zone de chalandise maximale est vraiment de 10 km. Donc en ville, elle va être plutôt de 1,5 km. donc 10 kilomètres en province. La sécurité, ça va être primordial. Il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus qu'il faut savoir, c'est que si on crée son propre système de stockage, donc c'est vraiment ce qu'on appelle du self-stockage, ça veut dire que on fournit la partie immobilière entre guillemets, on est responsable.
Système d'accès et puis c'est tout.
Il y a des systèmes d'accès et un peu de sécurité, il faut donc prévoir des portes blindées, prévoir des caméras de surveillance, etc. pour vraiment rassurer, et c'est ce qui va aussi faire en sorte que vous allez vous démarquer de la concurrence et dire mes box sont sécurisées, je suis capable de vous offrir un produit où vous pouvez stocker des choses de valeur sans vous inquiéter, quoi.
Mais si je reprends votre exemple, Jonathan, on est vraiment dans l'investissement, on choisit d'acheter un plateau, de l'opérer. Comment on distingue les locataires en B2B et en B2C? Je veux dire, assurer des pros versus assurer des particulier, c'est pas les mêmes enjeux de sécurité.
Alors tout dépend ce que vous allez stocker. Là, je parle vraiment de stockage traditionnel. Hein. On va éviter de stocker de l'hydrogène ou des choses comme ça. Hein. Il y a des stockers.
C'est encore un autre business.
Ouais, c'est un autre business, mais ça existe et c'est des business très rentables parce que du coup, c'est des espaces particuliers. Mais en tout cas, que ça soit pour du B2B ou du B2C, la demande est extrêmement élevé, et un B2B, si on prend l'exemple d'une boîte, par exemple les notaires sont des grands clients du stockage parce qu'ils doivent garder beaucoup de paperasse durant la vie de leur étude, et ils adorent stocker, donc c'est du papier, donc il faut que ça soit sec, il faut surtout pas qu'il y ait d'humidité, etc. Et la beauté de ce business, qui est un des rares business dans l'immobilier qui a encore cette capacité à avoir une fixation du loyer libre, donc ça veut dire que si votre stockage a des avantages que d'autres n'ont pas et que vous êtes capable d'offrir quelque chose d'unique sur votre marché.
On a un beau pricing power.
On a un beau pricing power et il y a une demande qui est vraiment très élevée actuellement. Pour la petite histoire, sur les 10 dernières années, le nombre, et je parle en volume là, a triplé, le nombre de structures de stockage a triplé. Alors je parle en centre, on ne parle pas en petit stockage individuel.
En nombre de mètres carrés, on peut estimer que ça a triplé.
Ouais, ça a presque triplé, ouais.
Une box, un petit espace de stockage urbain, on va dire, à proximité des lieux d'habitation, ça se trouve à partir de quel prix?
La grande question. Alors,
j'imagine qu'entre Paris et les grandes villes, et je veux dire des plus petites villes, c'est incomparable.
C'est incomparable, en effet. Et les prix, du coup, à la sortie, de location, sont également incomparables. Donc, un box, ce qu'on appelle un box, fait en général 10 mètres carrés environ, ce qui est à peu près la taille d'une place de parking en général, mais c'est à peu près 10 mètres carrés en province. Alors on va essayer de tout diviser. En province, ça peut aller de 5 000 à 10 000 euros. En banlieue proche, on va dire Île-de-France, ça va être entre 5 et 20 000 euros, selon est-ce qu'on est proche d'une grande ville, est-ce qu'il y a de la concurrence autour, etc. Et à Paris, ça peut monter très vite, autour de 30 à 40 000 euros dans l'hypercentre de Paris. Ouais. À titre d'exemple, Co-stockage a récemment, donc comme je disais,
été vendu par Ardian.
Récemment par Ardian. Le prix moyen des box était autour de 25 000 euros quand même.
Ouais, donc on est comparable à une place de parking dans Paris. On est sur un.
Sauf que ça se loue mieux en général qu'une place de parking, et ça a moins de problèmes qu'une place de parking peut avoir.
Pardon, petit Paris, mais j'imagine qu'avec tous les travaux de rénovation énergétique qui sont prévisibles ou qui sont en tout cas nécessaires dans les prochaines années, finalement miser sur ces espaces de stockage, c'est pas mal parce qu'on va bien avoir besoin de vider des appartements pour les refaire. Il va bien falloir stocker les choses.
Et oui. Et en plus, on déménage plus que jamais actuellement en France. Je crois qu'on reste en moyenne moins de 5 ans dans son logement actuellement. C'est une statistique versus plus de 10 ans il y a une quinzaine d'années. Donc la statistique est assez intéressante et donc ça prouve que les gens ont un besoin parfois court terme de stocker, mais également parfois long terme. Et la beauté de ce business que moi j'affectionne tout particulièrement maintenant depuis quelques mois, et d'ailleurs à Gesso Capital on s'intéresse fortement à ce business et on est en train d'acheter un premier lieu, c'est que contrairement à l'ensemble des autres business dans l'immobilier, enfin l'ensemble des autres possibilités d'achat dans l'immobilier, très peu de travaux, très peu d'entretien, ça s'opère globalement assez automatiquement, un code d'accès pour entrer ou un badge, et le reste se passe tout seul. Et en plus, les personnes en général, quand ils prennent un stockage, ils y font attention parce qu'ils y mettent des choses de valeur en général, des objets de valeur, et lorsque vous le récupérez, en général, il est en aussi bon état que lorsque vous l'avez laissé, contrairement à la plupart des autres biens immobiliers.
Voilà. Alors, quelle est l'aide à la décision ultime pour savoir s'il faut rester locataire ou s'il faut investir dans ce genre d'espace de stockage, pour conclure, Jonathan ?
La rentabilité, évidemment. Il faut chercher la rentabilité quand on fait de l'immobilier, c'est super important. Il faut traiter ce business comme de l'immobilier maintenant. Comme il y a 10-15 ans, je me souviens, au début finalement de Airbnb, où beaucoup étaient dubitatifs, et notamment les banques étaient dubitatifs du fait que un jour, la location saisonnière allait s'institutionnaliser, oui, et que ça allait devenir vraiment un investissement à part entière. Et moi, je m'en souviens au début, lorsque j'achetais mes premiers appartements et que je les mettais en location saisonnière, où les banques disaient « mais ça nous va pas ». Eh bien, c'est un peu la même chose avec le self-stockage. Depuis 2-3 ans, ça s'institutionnalise. Il y a des vrais rendements à aller chercher. Et je pense qu'il faut au moins chercher du 10% sur ce genre d'investissement.
Voilà, la perspective de rendement, on a commencé avec 15, on finit sur 10. Ça reste quand même intéressant pour l'immobilier.
15%, c'est ce qu'on peut prétendre. 10%, c'est ce qu'il faut attendre.
Voilà, l'analyse de Jonathan Anglove aux manettes d'Aguesso Capital et d'Aircall avec nous sur investir dans une cave, dans une box, dans le self-storage, comme on dit en bon franglais. Est-ce que c'est une bonne idée? Cette séquence est à retrouver en podcast ou en replay sur la plateforme et le site BFM Business. N'hésitez pas à aller la visionner à nouveau si vous êtes arrivé en cours de route. Nous allons marquer une petite publicité et après, c'est la deuxième partie de Tout pour investir. On va reparler immobilier avec Marie et notre invité. On va parler ETF parce que le jeudi, on s'intéresse aux trackers. On sera avec Jérémy Tubiana de BNP Paribas AM. Le marché se tourne vers le retail, vers les clients particuliers. Et puis, on investira différemment en famille avec l'équipe de Kimpa. Comment expliquer et impliquer vos enfants dans l'investissement à impact positif? C'est le pari de la fin d'émission. A tout de suite dans Tout pour investir.
Tout pour investir sur BFM Business.